L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Le jeudi, c'est écologie. Parfois, c'est agriculture biologique avec notre partenaire, la Maison de l'agriculture biologique du Finistère. Et cette année, on découvre ses adhérentes et adhérents. Aujourd'hui, c'est clairement du gourmand. Et pourtant, notre invité était plutôt orienté travaux publics et revêtement de voirie. Il a même travaillé sur les pavés du fou, paraît-il. Mais ça, c'était avant, car désormais, il fabrique de délicieux biscuits bio. Il a fondé l'entreprise Braisine. Il fait pousser du sarrasin bio en presqu'île de Crozon pour fabriquer ses biscuits. Et même pour fabriquer des chips et bientôt des crêpes. Il va nous raconter tout ça. Bonjour Yves-Philippe.
Bonjour.
Alors merci déjà parce que je devrais pas le dire, mais j'ai devant moi des 3 paquets quand même de produits fabriqués par Braisine. Déjà quand même, la première question qui s'est imposée à moi, c'était votre parcours. Comment on passe des travaux publics au gâteau, enfin à la biscuiterie?
C'est surprenant.
Ouais, vraiment.
Je dis souvent, j'ai dû faire ma crise de ma cinquantaine, donc
c'est ça.
Mon épouse est assez contente que ça soit fait dans ce sens-là. Non, c'est un retour aux sources, je pense. Ma grand-mère étant paysanne, plutôt dans le sud Finistère, j'ai eu envie de retrouver du sens à ma vie et retrouver du sens aussi avec tout ce qu'on entend sur l'écologie, le monde, l'environnement. Et donc j'ai fait une bascule. À un moment donné, j'ai eu besoin de m'aérer, j'ai acheté des premiers champs.
Ah ouais, c'est vous qui avez acheté les champs, c'est pas des champs dont vous avez hérité, parce que en plus c'est en presqu'île de Crozon, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et on vous dit, bah c'est pas, le foncier n'est pas forcément très disponible.
Le foncier n'est pas toujours très disponible. J'ai dû avoir de la chance à un moment donné. Je dis souvent, j'ai une très bonne étoile au-dessus de moi. Donc j'ai réussi à acquérir 2 sites. C'est vrai que là, j'essaye un troisième qui est un peu plus difficile, c'est vrai.
Ah ouais, et c'était bon, évidemment des terres agricoles. Il y avait déjà du sarrasin dessus ou...
Donc c'était des terres agricoles. Sur une des parcelles, l'autre parcelle, c'était du conventionnel. Et sur l'autre, par contre, c'était un agriculteur qui était parti à la retraite depuis 5 ans. Et donc là, on les a convertis en bio immédiatement. Et sur les autres, on termine la conversion en ce moment.
Ah oui, donc, parce que c'est long, ça prend quoi, 2-3 ans?
2 ans, oui, c'est ça.
Ouais. Et c'est à quel endroit à peu près, la presqu'île?
Donc nous, nos parcelles se situent à Argol. On se situe juste à la sortie du pont de Térénès, lorsqu'on quitte le pont.
On les voit de la route alors?
On les voit de la route. Ah
oui, c'est ça. Je vois lesquels c'est.
Le champ fleuri de sarrasin au printemps.
Très bien, et donc vous vouliez absolument faire du sarrasin, enfin...
Oui, bah je me suis engagé très rapidement et dès la première culture sur le sarrasin. Je trouvais ça intéressant puisque je trouvais que c'est la plante emblématique un peu bretonne. Les crêpes, on aime bien tous ici aussi dans le secteur. Et puis, je trouvais aussi intéressant la labellisation IGP.
Il y avait, alors, c'est quoi? Indication, pardon.
Géographiquement, ouais. Protégé.
D'accord.
Il y a un label qui défend et prône le sarrasin breton. Là, on travaille sur le petit gris. Historiquement, ils ont fait un parcours historique. Ils ont repris ce qu'on semait, nous, en Bretagne, dans le 15e siècle, 16e siècle.
Ah oui, parce que peut-être qu'il faut préciser qu'il y a plusieurs variétés de sarrasin, c'est ça?
Il y a plusieurs variétés. La taille du grain est différente. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire et le goût qu'on veut avoir sur les recettes sorties, on utilise différentes variétés. Et pour moi, c'est la variété IGP pour tout ce qui est farine. Et de la graine décortiquée, on est sûr du Zita.
Ah, bon, alors là, je vous avouerai que ça ne me dit pas grand-chose, mais bon. Oui, d'accord. Donc, je ne sais pas combien il y a de variétés de sarrasin, alors, du coup, vous pouvez nous éclairer là-dessus.
J'aurais du mal à vous dire, mais je pense qu'on doit être entre 8 et 10 variétés.
Le sarrasin, qui, précisons-le, n'est pas exactement une céréale, contrairement à ce qu'on dit, même si on l'appelle le blé noir communément, c'est
ça. Tout à fait, ouais, c'est vrai qu'on reste sous cette idée d'une céréale, du fait qu'on l'appelle le blé noir. En fait, son nom, c'est comme le sarrasin. Et donc, on est sur un polygonacé et non pas sur un graminé.
Et alors, au départ, vous vouliez juste cultiver sur je ne sais pas combien d'hectares, d'ailleurs, en gros.
Le premier site était de 40 hectares.
C'était ça, vous vouliez... C'était la culture avant tout
Oui, c'est besoin, comme je disais, c'est besoin de quitter mon monde de l'ingénierie, du travaux publics, besoin de s'aérer. Le contexte était plus difficile à ce moment-là. On était en 2016-2017. Une concurrence un peu plus féroce m'a fait avoir un besoin de m'aérer. Donc j'ai réussi l'opportunité d'acheter ces terres-là. Et c'était, oui, principalement pour faire que de la culture au début, mais je me suis confronté à la réalité économique des agriculteurs, et qui n'est pas toujours rose, et on entend souvent parler en ce moment, qui a fait qu'en réflexion, on s'est dit qu'il fallait qu'on transforme nos propres matières pour qu'on soit maître de notre culture de A à Z.
C'est ça. Et transformer, donc vous êtes dit plutôt les biscuits que les crêpes au départ, même si on va y venir aux crêpes, c'est ça ?
La première idée était principalement de faire que de la farine, donc créer une petite minoterie. Et pendant la réflexion, avant de quitter mon métier d'ingénierie, en ayant de la farine dans les mains, je me suis amusé à faire quelques petites recettes de biscuits. Principalement sucrés d'abord, et puis on a basculé sur du salé.
Et vous aviez l'outil pour faire la farine, déjà ?
Pendant les deux premières années de réflexion, j'avais aucune machine, c'était vraiment de la réflexion pure et de tests avec de la farine de confrères.
Ce qu'on appelle de la recherche-développement, en fait, c'est ça ?
Exactement, on était vraiment là-dedans.
Et vous êtes allé, du coup, rencontrer des concurrents, enfin, des futurs concurrents, enfin, parce que ça ne s'improvise pas de transformer, enfin, de devenir producteur de biscuits à une échelle bon, semi-industrielle, enfin, artisanale industrielle ?
Ah, bizarrement, si.
Vous êtes ingénieur, peut-être que ça aide.
Ouais, c'est peut-être ça. Moi, j'ai fouillé. C'est vrai que j'ai fouillé beaucoup sur les internet, les réseaux sociaux et autres. Donc ça aide peut-être. Et puis après, c'était beaucoup de tests de soi-même, donc des gros échecs. Après, j'ai la chance de connaître un peu de gens qui sont un peu dans la cuisine, qui m'ont testé mes recettes régulièrement. Et lorsqu'ils me l'ont validé, je me suis dit que ça devait être bon, puisque là, j'ai obtenu 2 étoiles au Michelin. Vous voyez. Puisqu'en fait, c'est Nolwenn Kaur de l'hôtellerie de la Pointe-Saint-Mathieu et puis Nicolas Conro de la Butte qui ont fait mes testeurs en goût sur ces premières recettes.
Et ils sont étoilés.
Ils sont tous les deux une étoile au Michelin.
D'accord.
C'est pour ça que je dis, moi j'en ai deux.
Ah oui, donc c'était pas n'importe qui comme testeur. Et donc vous avez testé combien de types de produits en gros ? Enfin, si, je sais pas si vous avez compté, mais...
On évolue au fur et à mesure. Là, on doit être une dizaine de produits dans notre gamme. Le lancement a été fait sur 4 produits. On a lancé un premier sablé, un cookies, un sablé chocolat, sablé et sablé chocolat, un gâteau breton et puis un premier biscuit apéritif.
Donc 3 salés et 3 sucrés et un salé, c'est ça au départ ?
Le démarrage a été fait comme ça.
Et puis plus ça va. Enfin, j'ai l'impression que c'est maintenant ce sont les salés qui dominent, c'est ça ?
Je pense qu'on est tous des bons vivants. On met des bons produits dedans, puisqu'en fait, l'important pour nous aussi, c'est de travailler le circuit court et l'alliance locale. Et l'alliance locale avec des agriculteurs engagés bio dans le secteur, principalement Finistère, après Bretagne, et puis on s'étend pour certains produits qui ne sont pas en Bretagne. Mais pour nos biscuits apéritifs salés, c'est vrai qu'on est quasiment sur du 100% Finistère.
Donc là, vous avez une douzaine de produits actuellement, hein, c'est
on
ça ?
On a à peu près sur une douzaine de produits. On a... Dans la gamme salée, on est sur 5 produits, et sur la gamme sucrée, 5 produits, et après, on est sur de la graine décortiquée.
Oui, et donc, est-ce que votre production en presqu'île de Crozon suffit ou non ? Enfin, comment ça, en tout cas pour le sarrasin, puisque...
Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, on est autosuffisant. On a même un peu, vu qu'on est en démarrage, puisqu'on a commencé à commercialiser que depuis janvier 2021.
Ah oui, en effet, c'est vraiment bon anniversaire.
Non. Merci, c'est quasiment ça. Et donc on a encore un petit palier, on a encore 4 tonnes de rab pour la première année. Et si ça se poursuit comme ça, on fera des alliances aussi locales pour se compléter dans la matière première qui nous manquera.
Ça se stocke bien le sarrasin sinon ? Non.
Les stockeurs labellisés, oui. Ventiles et autres, et donc il sèche. Le sarrasin est bien séché au départ dans les 24 heures de la culture.
Et donc, ça, il doit être séché tout de suite.
Tout de suite, oui, parce que sinon il fermente et il part en chaleur rapidement.
D'accord. Ça, c'est le sarrasin pour faire de la farine. J'imagine que c'est différent quand c'est pour faire des thés. Enfin, je crois qu'on fait de la tisane au sarrasin.
Oui, c'est quand même, il faut quand même le sécher dès les 24 heures. Et après, lorsqu'on part sur la tisane pour faire du sobacha,
c'est comme ça que ça s'appelle.
Ça s'appelle comme ça, c'est une boisson japonaise. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de théine. Et donc là, qu'est-ce que le sobacha ? C'est une graine de sarrasin qu'on décortique et que l'on torréfie derrière.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est pour ça que dans la partie stockage, on est sur le même process que pour la farine au départ. Puisque c'est le même grain, mis à part que ce n'est pas la même variété.
Et d'où, vous, dans votre cas, vous le transformez rapidement en farine, votre sarrasin ? Enfin, une fois qu'il est séché
Oui, non. On fait de la farine en fait, toutes les semaines. Pour avoir de la farine fraîche pour tous nos biscuits. Donc, on a une production hebdomadaire.
Et faire de la farine de sarrasin, c'est juste moudre le sarrasin. Enfin, une fois qu'il est sec, c'est ça. Il n'y a pas de.
On le brosse d'abord pour le nettoyer. Et puis après, on le broie. Donc nous, on a choisi le mode d'un moulin à pierre pour avoir un seul passage et puis que la farine ne chauffe pas pour garder toutes les valeurs nutritives du sarrasin.
Alors voilà, on en arrive au sarrasin qui vous a intéressé parce que c'était une plante traditionnellement cultivée en Bretagne, mais pas seulement, j'imagine. Quelles sont les vertus du sarrasin ?
On est sur... si je parle d'abord nutritive, on est sur une plante qui est très riche en valeurs nutritives. Nous apporte une source de protéines végétales très importante. Je donne quelques chiffres, c'est 13 grammes pour 100 grammes. Donc c'est intéressant. Elle a énormément de minéraux essentiels à l'intérieur, comme le phosphore, le potassium, le calcium, et une grande quantité de magnésium aussi. Si on a 230 mg de magnésium pour 100 grammes. Donc ces teneurs en matière grasse et végétale sont faibles. Donc ça, c'est une vertu aussi.
Oui, tout à fait.
Et la dernière vertu, c'est une plante riche en fibres solubles, donc qui nous régule notre partie intestinale.
Ah oui, c'est bon pour la digestion, en fait, c'est ça ?
Exactement.
Et en plus, il n'y a pas de gluten pour les personnes qui seraient intolérantes ou voire allergiques au gluten.
Exactement. Donc ça, c'est un des avantages, et c'est pour ça qu'on n'est pas sur le blé, et il n'y a pas de gluten à l'intérieur, vu que c'est le polygonacé. En fait, le polygonacé, on est sur une plante qui est de la même famille que la rhubarbe.
Ah oui, d'accord.
C'est
oui.
Surprenant.
En effet. Et par contre, c'est peut-être plus difficile à travailler pour faire certaines recettes, puisque ça n'est pas comme le blé.
Voilà. Le petit point faible, c'est que le gluten, c'est de la colle. Et de la colle, souvent, pour des recettes, ça aide, puisque on agglomère les diverses matières ensemble. Tandis que là, il faut trouver d'autres liants, en fait, pour pouvoir agglomérer nos diverses matières.
Alors, sans donner tous les secrets de vos recettes, mais c'est quoi, en gros, les liens
Nous, on est... principalement, ça va être l'œuf, en fait, pour nous, qui va faire notre lien. Et le fromage pour le biscuit apéritif.
Ah oui, évidemment, à la tome.
Ah, et très riche en beurre, puisqu'on est tous bien bretons.
On est bretons, bien sûr. En beurre salé, bien sûr.
Ah bah, bien sûr. On ne connaît pas, sinon c'est la margarine, non
Non, ça, c'est impensable. Juste sur le plan de la culture, de l'agriculture, c'est donc évidemment bien adapté à la Bretagne, puisque c'est traditionnellement cultivé. Il y a d'autres avantages, peut-être
Un des avantages pour l'agriculteur aussi, c'est que c'est une plante auto-nettoyante, c'est-à-dire qu'on écrase un peu toutes les mauvaises herbes qu'il peut avoir sur une parcelle. Donc ça, c'est un des gros points. C'est une culture facile, puisqu'en fait, on la sème et on dit que c'est une plante de 100 jours. Donc en gros, 100 jours après, on revient, on la récolte.
Et oui, on ne fait rien entre-temps.
On n'a pas d'intervention à faire. Nous sommes en bio, mais même pour une autre culture en conventionnel, ils n'utilisent pas de phyto ou autre dessus. C'est une plante qu'on laisse vivre tout seul.
Ah bon, jamais. Jamais de...
Jamais.
Ah oui, donc ouais. C'est tout le temps bio finalement le sarrasin.
Mis à part que les terres d'origine ne sont pas obligatoirement tous bio, et donc il peut avoir eu des phytos dans la culture d'avant, et donc dans les racines il peut quand même avoir des traces de mauvaises matières.
Et ça se cueille comment
Là on retrouve le mode du blé, et donc là on fait une vraie moisson. On utilise une batteuse en fait.
Mmh. Et donc vous, il paraît que dans certaines régions, on peut faire deux récoltes de sarrasin dans l'année, donc ce n'est pas encore le cas en Bretagne.
Non, du fait de notre propre climat, nous, parce qu'en fait le sarrasin est aussi sensible au gel, donc on le plante après les saintes glaces, mmh, et on le récolte à la fin septembre.
D'accord.
Et donc c'est vrai que c'est plus difficile de faire une deuxième récolte. On peut en mettre du sarrasin après, mais c'est plus pour aider une autre culture pour... tromper un peu les parasites ou les insectes sur des cultures futures.
Ah oui, c'est quand même pas un engrais vert, le sarrasin. Enfin, on peut pas l'utiliser.
Il y en a certains qui l'utilisent en engrais vert.
Ah ouais. Donc en plus, ça n'appauvrit pas le sol, quoi. C'est formidable.
C'est magique comme
Mais c'est magique. Et est-ce que du coup, vous avez fait des émules en presqu'île ou en tout cas alentour dans notre territoire? Est-ce qu'il y a d'autres paysans qui se sont dit, bah tiens, je vais faire du sarrasin aussi?
Je pense que la culture du sarrasin progresse au fur et à mesure en Bretagne, quand même. D'une part, grâce à l'association Blé Noir Tradition Bretagne, qui est donc l'organisme qui a labellisé ce sarrasin-là en IGP, en indication géographiquement protégée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit quand même que 70 à 75% de la consommation de sarrasin vient de Chine ou de pays de l'Est.
Oui, c'est ça. C'est très importé, en fait.
C'est très, très importé, parce qu'en fait, on n'a pas pas assez de parcelles en Bretagne ou d'agriculteurs qui font pousser cette plante-là. du fait aussi d'un changement de paradigme ou d'évolution dans les années 60 avec la PAC, la politique agricole commune, qui a poussé à l'intensification de cultures sur certaines variétés, en fait, compte.
Alors que là, il y a une demande, clairement, qui monte, je pense, hein, de sarrasin, de consommation de sarrasin.
C'est vrai que moi, je suis assez jeune. Je ne suis pas tout à fait jeune, mais jeune dans le métier. Et ce que je m'aperçois, quand même, dans une année, l'évolution et la demande est quand même croissante de notre côté, en tout cas. Bah, c'est vrai que de plus en plus de personnes quand même, sont allergiques ou intolérants au gluten. Surtout, sûrement dû aussi à la... l'intensification des cultures et puis à l'hybridation de blé qui ont fait que le blé a évolué et ce gluten dans le blé a évolué aussi dans le temps. C'est pour ça que nous aussi, dans les cultures que l'on réalise en blé, c'est du blé ancien et c'est des blés qui datent de 1900, 1910.
Donc vous avez quelques cultures en blé aussi. Vous ne faites pas que du sarrasin.
Non, on ne fait pas que du sarrasin. Pourquoi ? Déjà parce que on est en bio et en bio, il faut faire des rotations longues pour éviter les parasites et les mauvaises herbes sur les parcelles. Donc on est sur un cycle de 5 cultures sur une parcelle.
Oui. Tous les 5 ans, en fait, ça revient.
En gros, on est tous les 5 ans sur une parcelle. Et autrement, on a diverses cultures, dont un blé ancien qu'on a semé pour la première année l'année dernière. Et on a fait notre première récolte, notre première moisson en août.
Il est dans les recettes déjà, là, ça y est.
C'est pour le projet de la future crêperie.
Oui, c'est là. Et quels sont les autres produits que vous travaillez déjà en attendant de parler de ce
Moi, sous Brésine, on travaille uniquement le sarrasin.
D'accord. Ah oui.
Sarrasin, dans lequel on incorpore donc des matières premières hautes, mais nous, notre élément de base et l'élément de base qui vient de notre exploitation, c'est le sarrasin.
Il y a d'autres éventuellement quand même. Il y a d'autres céréales éventuellement que vous incorporez dans vos recettes pour l'instant.
Dans nos recettes, nous, en termes de céréales, on est 100% gluten, 100% sarrasin.
Ah ouais, d'accord.
Et autrement, c'est des œufs, c'est du fromage, c'est du beurre, c'est du sucre, du chocolat.
Et alors chocolat, j'imagine qu'il ne vient pas de Bretagne. Non. Le fromage, vous avez réussi à trouver
Ouais, le fromage, c'est une belle histoire. On a rencontré Maya est une agricultrice de Banalec, qui est d'origine hollandaise, donc qui a revendu sa ferme en Hollande et qui a recréé une ferme bio à Banalec et qui nous sort une tome bio finistérienne à Banalec.
Une tome nature, parce que là, on sait que dans les Pays-Bas, ils aiment bien rajouter du cumin, enfin des tas de trucs dans leur fromage.
Maya a travaillé quatre sortes de tomes. Nous, on en a sélectionné 3. On a sélectionné une donc nature pour nos biscuits à la tome nature, une à la tome aromatisée au funé grec. Le funé grec, c'est une épice aussi asiatique qui a, pour ma part, je retrouve qu'elle a un petit goût de noix lorsqu'on la mange.
Le funé grec. J'aurais dit aussi un petit peu de fenouil, justement.
Ouais, un peu aussi, exactement.
Ouais, c'est vraiment bien pour les soupes, le funé grec.
C'est bon. Et puis autrement, elle ajoute cette épice à l'intérieur dans une des tomes. Donc on l'appelle, c'est la tome aux 7 saveurs.
Et autre belle histoire locale avec des fournisseurs, qu'est-ce que vous avez ?
Autrement, on fait travailler donc la ferme de Carnivina à Argols, donc c'est nos voisins.
Et oui, et puis en plus, ils viennent d'avoir un prix, je crois. C'est pour les œufs, pardon, Carnivina.
Ouais, oui, Carnivina, c'est Carnivina, les œufs. Et on travaille avec eux pour tout ce qui est œufs. Et la belle histoire, c'est qu'en fait, on récupère leur fiente aussi, après, derrière des poules, pour amender nos terres. Donc c'est un peu une économie circulaire et vertueuse.
Tout à fait. Le beurre, peut-être, non ?
Et le beurre, il vient de la laiterie de Carguillet, qui est à Plouet. Donc, c'est un beurre bio aussi.
Ouais.
Je suis content. Ils viennent juste d'obtenir un prix, eux, justement, aussi. Au Salon de l'agriculture. C'est ça, on n'était pas loin. Et c'est sur du yaourt, la médaille d'or.
Bon, vous ne mettez pas encore de yaourt dans vos gâteaux, mais peut-être encore. Ça viendra.
Mais on les mettra en vente à l'épicerie qu'on va créer avec la crêperie.
Voilà, c'est là qu'on va en arriver à vos projets, bien sûr. Vous avez tout labellisé vos produits, en tout cas les gâteaux, les biscuits, ils sont tous labellisés AB, bio.
Tout à fait. Ouais. L'important, lorsque on a lancé la démarche des terres plus la démarche de la biscuiterie, c'était d'être vertueux, moi quittant un monde un peu carboné de l'ingénierie du travail public, et utilisant comme un peu beaucoup de pétrole, c'était de vouloir avoir la trace carbone et la trace environnementale la plus légère possible. Et donc, on a une démarche environnementale et une démarche labellisée bio sur l'ensemble de nos produits.
Donc, c'était logique que vous soyez adhérent de la Maison de l'Agriculture bio.
Tout à fait.
Et ça vous permet de rencontrer justement des fournisseurs, sans doute.
Du partenariat et échanges entre confrères.
Mm-hmm. Et donc, vous n'arrêtez plus de vous développer, parce que déjà, les biscuits que vous avez sortis marchent très bien, apparemment. Enfin, c'est ça
Oui, c'est vrai qu'on a de la chance. on a eu un succès pour cette première année. Je pense que ce succès est dû à deux choses. Je pense que nos produits sont...
Bon.
Oui, je suis un bon commercial aussi. Non, mais je pense qu'ils sont vraiment goûtus et sont généreux en matière première et autres. Moi, je dis que c'est assez simple, en fait, de faire ces recettes-là. Comme on n'utilise que du bon produit, le produit final, il peut être que bon.
Et oui, voilà. Évidemment.
Et puis après, dans l'entreprise, j'ai voulu aussi miser sur la transmission et le passage de témoins et former les jeunes. Donc, c'est une équipe super jeune chez moi. La moyenne d'âge doit être 26 ans au maximum, je pense.
Vous êtes 8 en tout, c'est ça, non ?
On est 8, oui. Mmh. Et donc, j'ai recruté des alternants un peu sur tous les niveaux. Et le succès est énormément dû à eux aussi, puisque en fait, c'est leur petite boîte, c'est les entrepreneurs et ils développent Brésine. Ils ont Brésine dans le cœur.
Oui, ils ont des idées et puis vous les écoutez, quoi, c'est ça ?
Ah, je suis obligé de courir pour les suivre.
Ouais, j'imagine. Et donc, vous avez un projet là en particulier, puisque vous venez de lancer un financement participatif, donc allez-y, profitez-en.
Oui, ben, c'est vrai qu'on. C'est l'idée de Julie au sein de la communication chez nous qui s'est dit on avait un succès sur les chips en ce moment et donc. On produit simplement de façon très, très artisanale, puisqu'on travaille sur 2000 ligues.
Ah ouais.
Donc, c'est vrai que l'atelier...
Donc, chips de sarrasin, hein, bien sûr.
Chips de sarrasin, ouais. C'est ça. Ça part de la pâte à crêpes classique de sarrasin. Donc, on a décidé de passer sur un manège pour pouvoir suivre le succès aussi de ce produit-là.
Manège à crêpes.
Manège à crêpes. Donc, c'est exactement ça. Donc, il y a 6000 ligues qui tournent en constant. Donc, pour ce financement-là, et puis le financement du futur moulin pour pouvoir broyer nos blés anciens. Julie a eu l'idée de lancer ce financement participatif sur la plateforme Mimosa, afin de nous aider à acheter ces deux machines. Et puis faire participer en même temps les personnes qui contribuent au développement de notre marque et puis de développement de notre projet.
Et qu'est-ce qu'on gagne alors, entre guillemets, quand on participe ? Des gâteaux ?
Oui, il y a des dons contreparties. Donc, c'est vrai qu'on offre quelques sachets de biscuits. On peut avoir le nom sur le manège aussi. On va le graver dessus.
Ah ouais.
On fait un peu comme les navigateurs, vous savez, les sans noms pour un bateau. On part un peu sur cette idée-là.
Très bien. Et il vous faut combien, en gros, pour réaliser ça ?
On a un premier palier du premier financement participatif à 5000 euros. Et ça si va. On atteint celui-là, aujourd'hui on est à 50% de ce palier-là.
Jusqu'à
et
quand
On est encore sur 19 jours, on est encore bien. Et puis si on a la chance d'avoir un beau succès sur ce financement participatif, on upgrade le palier, donc on monte le palier à 15 000 euros pour pouvoir justement financer le manège plus le moulin.
Le moulin, donc...
En gros, on est sur 5 000 et 10 000 euros. C'est pour ça que 5 000, c'est le manège, parce que c'est un manège d'occasion qu'on a acheté. Et puis, on partirait sur le moulin après à 10 000 euros.
Et c'est un moulin à sarrasin, avant tout.
Là, ça sera un moulin spécialement dédié que pour ce blé. Parce qu'en fait, veut différencier nos deux farines pour ne pas avoir de contamination du gluten.
Et oui, bien sûr. Et à terme, donc, vous prévoyez de faire des crêpes si vous avez votre manège à crêpes ça suffira pour les chips, quoi.
Le manège à crêpes va servir uniquement pour les chips, mais par contre, on a l'idée, et on est en cours de projet pour finaliser, d'une ouverture d'une crêperie qui se ouvrira de fin avril, début mai.
À quel endroit ?
On est là sur Plougastel-Daoulas, on est juste à l'entrée de Brest, juste avant le pont de Plougastel.
Alors quand vous dites une crêperie, c'est une crêperie où on s'assoit pour manger des crêpes ou c'est une crêperie pour vendre des crêpes
Non, là, ça sera vraiment une crêperie type restaurant où l'idée est justement de sortir des crêpes paysanne, qu'on appelle ça, parce qu'on appelait ça une crêperie paysanne, puisqu'en fait, on va utiliser nos propres blés et nos propres sarrasin.
Donc, il y aura blé noir, enfin des crêpes de blé noir et des crêpes de froment.
De froment et le froment, donc à partir de nos blés anciens. Donc, c'est des blés qui ont 29 variétés différentes, comme je le disais tout à l'heure, qui datent de 1900 à 1910, 1930. Donc, ça va être un blé, des crêpes aussi qui ont un taux de gluten plus faible et un gluten qui sera ingérable en fait et pour les personnes intolérantes, pas allergiques, intolérantes, elles les digèrent plus facilement.
Plus facile à digérer, oui, tout à fait. Ouais. Très bien, vous ne manquez pas de projet en gros, quoi.
Non, c'est vrai que ça bouillonne un peu, mais quand je vous dis, comme je suis poussé par ma jeune équipe, ça bouillonne.
Eh bien, on vous remercie d'autant plus d'être venu. Juste, vous avez combien pour la distribution? Vous avez combien de vous distribuer dans énormément de boutiques, hein, je crois, des vrac surtout.
Oui, ben, on a commencé à développer d'abord l'univers du vrac. Pourquoi? Parce qu'en fait, on, comme je vous disais tout à l'heure, on voulait avoir une trace environnementale la plus propre possible. Donc, la mise au point du packaging a été très très long pour trouver du papier craft. Et, mais une fois qu'on a trouvé du papier craft, nous, on a des produits comme bien gras, puisqu'on met beaucoup de beurre. Donc à la période d'été, ça peut suinter un peu du fait de ce beurre. Et on, il fallait qu'on ait un film à l'intérieur qui puisse retenir ce gras pour ne pas faire papier buvard avec le papier craft. Donc ça a mis du temps. Donc on s'est développé d'abord sur l'univers du vrac, ce qui tombait bien puisqu'on était aussi à la période du Covid et donc la population était plutôt enclin sur ce marché-là.
Réceptive, ouais, c'est vrai.
Qui souffre un peu en ce moment.
Ah ouais, je sais. Ouais. D'ailleurs, on va faire une émission avec le magasin Les Fous de Vrac là-dessus. Ouais.
Ça souffre énormément. Ah ouais. Il y a une baisse de moins 20, moins 30, moins 40% comme de consommation là-dessus. Et autrement, donc on est dans l'univers du packaging. Et donc dans l'univers du packaging, on est distribué dans tout le magasin bio, épicerie fine. Mmh. Et c'est vrai qu'on a un peu beaucoup de succès, personnellement, à ma petite échelle. Hein, on est à peu près à 250 points de vente et on est principalement sur Bretagne, Pays-Loire. Là, on est très, très bien implanté. Et puis, on développe en ce moment des implantations Paris et l'Est de la France.
Ah, le circuit est de moins en moins court.
C'est ça. On utilise un peu plus de carbone.
Victime de votre succès. D'accord. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Yves-Philippe. Et puis, longue vie à Brésine.
Un grand merci. Au revoir.
Au revoir.